Alors c'est vrai que donc cette année-là, on change de thème, donc les enjeux de la question ou de la crise écologique, qu'on essaiera de décliner sous ces différents aspects. Alors c'est vrai que j'ai peut-être pas avancé assez vite cette année, mais enfin pour l'instant nous avons deux séances qui sont prévues. Une séance le 16 novembre avec Raphaël Picon, qui est théologien. Et puis une séance avec Olivier Abel, philosophe, le 11 janvier. Mais peut-être qu'on essaiera de faire appel aussi à des gens qui ne sont pas forcément soit dans la philo, soit dans la théologie. Puisque c'est vrai que ce que moi je pourrais dire, évidemment, ou ce que je vais essayer de vous dire, est plutôt de nature, vous en doutez, philosophique. Et j'espère que mon exposé ne sera pas trop indigeste. Mais le risque n'est pas nul. Quand même. Loin s'en faut, loin s'en faut. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'essayer d'expliquer comment les philosophes comprennent cette question-là, mais enfin c'est ce que je vais essayer de faire pour vous. Voilà, donc on a un petit peu de retard, mais enfin bon, on finira avec 5 minutes de retard. Alors, les enjeux de la crise écologique. Alors moi, je ne prendrai pas parti, j'en ai pas les moyens et les connaissances sur le plan intellectuel pour savoir si oui ou non il y a une crise. Il est évident que, et a fortiori, je ne parlerai pas des questions sur les climato-sceptiques, ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'évolution véritable ou pas. Je ne parlerai pas de cela. Mais je crois par contre qu'il y a quand même un certain consensus, je crois quand même, à la fois chez les scientifiques de toute discipline comme chez l'homme de la rue, pour se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose, il y a une évolution, il y a quelque chose dans les relations entre l'homme et la nature qui a changé. Il semblerait que le rapport de force, sans doute peut-être pas partout dans le monde, mais cela se fait sentir quand même partout dans le monde, le rapport de force entre l'homme et la nature a un petit peu changé, a un petit peu évolué. Vous savez que le mot crise vient d'un verbe grec qui veut dire juger. Donc crise, ça veut dire le moment où il faudra finalement y voir clair, il faudra discerner. C'est le moment où il faudra aussi peut-être agir d'une autre manière. Donc une crise, c'est toujours aussi quelque chose d'intéressant et quelque chose de relativement favorable. Alors, l'option que moi je vais suivre, encore une fois, ça sera de se demander dans quelle mesure, s'il y a crise écologique, et on va partir de l'hypothèse du fait qu'il y en a effectivement une, on va admettre l'existence d'une crise écologique. Et la question que je me poserai, c'est est-ce que ça remet en cause un certain nombre de fondements qui sont les fondements de notre modèle de développement économique, mais aussi modèle de développement technique, modèle de développement scientifique. Et derrière ces modèles-là, il y a des modèles qui sont à la fois philosophiques et théologiques. Donc, je procéderai de la manière suivante. Dans une première partie, je me demanderai d'abord, quel est ce modèle qui semble être remis en cause ou en question? Et je ferai un petit rappel de la philosophie de notre ami Descartes. Alors, il y a des gens qui passent leur vie entière à étudier la philosophie de Descartes. Moi, je vous ferai la philosophie de Descartes en 3 minutes 30 à peu près, hein. J'espère que vous me pardonnerez. Donc, on fera un petit détour par Descartes pour voir en quoi consistait ce modèle qui semble être remis en cause par la crise écologique. Et puis ensuite, on ira interroger deux philosophes, donc deux philosophes du XXe siècle. Il y en a un qui est décédé et qui a vécu assez longtemps sur la totalité du XXe siècle, Hans Jonas, et dont le livre, Le principe responsabilité, est assez connu, hein, et dont le sous-titre est Une éthique pour la civilisation technologique. Donc on essaiera de voir un petit peu ce que Hans Jonas peut nous apprendre, et puis aussi Michel Serres, qui est un philosophe français contemporain qui vit toujours, et donc qui a écrit un livre qui s'appelle Le contrat naturel, et dans lequel il expose ses vues sur cette question-là. Et puis, je me poserai la question, mais est-ce que ces nouvelles philosophies, ces nouvelles manières de penser l'éthique à partir de la crise écologique, est-ce qu'elles ont quelque chose de religieux, oui ou non? Et ça, je pense que ça peut nous intéresser. Et c'est vrai que moi, je me dis souvent que ce qu'on appelle le retour du religieux, le retour du religieux au sens politique du terme qui occupe le terrain de l'actualité depuis les années 80, c'est sans doute important et intéressant, mais je pense que le retour du religieux ne sera pas grand-chose eu égard à ce que pourrait être un retour du religieux via des considérations écologiques. Et si j'ose dire, pour ne pas déflorer quand même mon propos en conclusion, retour du religieux via la question écologique, pour le meilleur peut-être, mais aussi peut-être pour le pire. Voilà pourquoi il faudra, je crois, essayer de discerner un petit peu les enjeux. Alors, si notre modèle de développement économique, scientifique, technique semble remis en cause, encore faut-il faire un petit rappel, un petit détour par notre ami Descartes. Alors Descartes n'est pas le seul philosophe de la modernité, loin s'en faut. Il a le mérite d'être français et je crois quand même qu'il a joué un rôle assez extraordinaire. Et souvent à une époque, beaucoup d'esprits travaillent un petit peu dans les mêmes domaines et se rejoignent. Galilée avant lui, hein, 1604, la loi de la chute des corps, 1637, le discours de la méthode, Galilée qui disait que la nature parle une langue, et c'est la langue des mathématiques, donc le modèle, si vous voulez, scientifique, moderne, est déjà là avec Galilée. Mais c'est vraiment Descartes qui se fera vraiment le philosophe de cette révolution philosophique et scientifique. Alors Descartes définit la philosophie comme le fait de se conduire en cette vie avec assurance. Voilà quelqu'un qui, vous le savez, n'aimait pas le doute, parce que sans doute, dans sa vie, il avait trop douté d'ailleurs. Il avait la passion de la certitude, et quand il fait le bilan de ses études, il dit que finalement, il n'a pas appris grand-chose, sauf en maths, où vraiment, là, c'était du sérieux, c'était du solide, et il y trouvait vraiment une vraie jouissance et une vraie satisfaction. Et comment se fait-il que si la jouissance de la certitude existe, au moins dans le domaine des mathématiques, comment se fait-il qu'on ne puisse pas la trouver en cette vie? Voilà ce qui va mettre littéralement Descartes en route dans son entreprise philosophique. Alors, vous le savez, puisqu'il cherche la certitude et qu'il n'en a pas sur tous les sujets, il entreprend justement de se libérer du doute, non pas en le mettant de côté, mais en le pratiquant à fond, ce qu'on appelle le doute hyperbolique. Et il raconte, voilà, que doutant de tout, il ne pouvait plus douter du fait qu'en doutant, il pensait, que s'il pensait, il était. Enfin bref, c'est sa fameuse découverte du cogito ergo sum, du « je pense, donc je suis », et qui est évidemment un moment important dans l'histoire de la philosophie, même si Saint-Augustin l'a dit avant lui, mais du point de vue des mots. Mais ce que ça veut dire chez Descartes, c'est tout autre chose. C'est une mise à distance du monde par ce travail du doute et de la réflexion qui aboutit au dualisme cartésien. C'est-à-dire que pour Descartes, le monde est constitué de deux substances. La substance pensante, dont il fait l'expérience dans la pratique du doute, et puis la substance étendue, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur de lui. La substance étendue, c'est-à-dire le monde des corps, y compris d'ailleurs son propre corps. Donc il y a un dualisme métaphysique fondamental, et qui est le fondement d'ailleurs de la pensée scientifique moderne. Il y a la pensée pure, en quelque sorte, et puis tout le reste, c'est de l'étendue. C'est pas un hasard si, effectivement, Descartes invente une manière de concevoir, justement, la nature comme quelque chose qui peut se représenter par la figure et par le mouvement, dit-il. Voilà. Alors, voilà le geste cartésien métaphysique au point de départ. Et il se dit, mais maintenant, il faudrait reconstruire tout l'édifice des sciences, qui ne lui paraissait pas du tout satisfaisant à son époque. Et il emploie une métaphore, la métaphore de l'arbre, dans la préface qu'il a donnée à la traduction qu'il avait demandée des principes de la philosophie, qui avait été écrit en latin par lui et que quelqu'un avait traduit en français. Il a donné une préface à cette traduction. Et c'est dans cette traduction qu'il y a la métaphore de l'arbre, où il dit, ben voilà, toute la connaissance peut être représentée comme un arbre dont les racines seraient la métaphysique, c'est-à-dire la science des premiers principes, le premier principe étant la subjectivité pensante, le « je pense ». Et c'est là où c'est moderne, c'est que le « je pense » précède Dieu. C'est pour ça que, d'une certaine manière, Descartes a tellement déplu et, dans une certaine mesure, est toujours considéré comme hérétique par certaines traditions religieuses, parce qu'il pense que, justement, je ne peux pas ne pas d'abord me poser la question de savoir ce que je suis et qui je suis, avant d'aborder la question de l'existence de Dieu. Le tronc, c'est la physique, et puis les branches, ce sont les sciences particulières. Et la plus haute des branches, c'est la morale, qui est la science la plus complexe, et ce vers quoi toute la philosophie devrait tendre, puisque la morale nous apprend à nous conduire en cette vie, et que ça a toujours été la grande préoccupation de Descartes. La morale est une autre branche qui est pour lui absolument capitale, et qui est évidemment la médecine. Donc Descartes est le père, finalement, de cette idée que tout l'effort de la philosophie doit tendre, certes, vers la morale, mais doit tendre vers les progrès de la médecine. Ça, c'est un point absolument capital, et c'est un de nos choix de société fondamental. Cet allongement de la vie humaine, qui n'a sans doute pas que des avantages, mais qui a aussi quand même de grands avantages, me semble-t-il. Alors pourquoi la médecine ? Alors c'est très intéressant parce que Descartes est à la fois un stoïcien et un anti-stoïcien. Donc il est redevable de la manière très traditionnelle de philosopher, mais en même temps d'une manière très différente. Alors le stoïcisme, donc... C'est ces philosophes qui nous ont laissé, vous le savez, un adjectif, stoïque. Donc quelqu'un de stoïque, c'est quelqu'un de relativement impassible, malgré les adversités de la vie qui, tôt ou tard, ne peuvent pas ne pas manquer de venir. Et donc la grande distinction, et qui est très importante pour notre réflexion, on verra, par rapport à l'écologie, la grande distinction des stoïques ou des stoïciens, c'est qu'au fond, dans la vie, il faut se préoccuper de ce qui nous regarde, et non pas de ce qui ne nous regarde pas, comme disent les journalistes. Et ce qui nous regarde, c'est deux choses, penser et vouloir. Et ce qui ne nous regarde pas, c'est tout le reste. Et donc, c'est la fameuse distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Plus exactement, ce qui ne dépend pas seulement de nous. Tout ce qui arrive, et y compris les emmerdements. Et donc, le stoïcisme, c'est quoi ? Bien, c'est s'occuper de ce qui est notre patrie en propre, nous, êtres humains, c'est-à-dire la volonté et la pensée, c'est-à-dire le monde de l'esprit. Et il faut éduquer la volonté et la pensée pour comprendre que ce qui arrive est d'un autre ordre et idéalement devrait ne pas trop nous toucher et devrait ne pas trop nous affecter. Il y a une idée qui est très belle et très forte qu'on retrouve chez Pascal, par exemple, quand Pascal dit « bien penser, c'est là toute la morale et pour le reste, basta ». On est vraiment là dans la grande tradition qui est aux antipodes de toute forme de petit moralisme étroit. Mais bien penser, c'est très fatigant et assez difficile, hein, ne l'oublions pas. Alors, en quoi est-ce qu'il est stoïcien ? Eh bien, on le voit très bien, il explique, enfin, il a une morale assez commune, il dit, voilà, il ne faut pas passer sa vie à désirer, avoir, je ne sais pas quoi, d'être comme des oiseaux, d'avoir des ailes pour voler, ou je ne sais trop quoi. Bref, le sage, ce n'est pas celui qui voudrait avoir, en quelque sorte, ce qu'il ne peut pas avoir, c'est celui qui essaye de vouloir ce qu'il peut, en quelque sorte, et de bien le vouloir. C'est une forme de renoncement, incontestablement. Et en ce sens-là, il est bien stoïque ou stoïcien. Et comme on ne peut pas tout désirer et que ça n'a aucun sens de vouloir tout désirer, par contre, il faut faire un détour qui est le détour de la connaissance. Et ça, c'est un désir légitime qui appartient à l'homme en propre et qui est une tâche que l'on peut mener à l'infini. Mais, et c'est là que tout change, pour Descartes, le travail de la pensée et de la connaissance, ou plutôt chercher la vérité dans les sciences, qui est le sous-titre du discours de la méthode, c'est que ces sciences que Descartes appelle de ses voeux, ce sont des sciences qui seraient de nature à changer nos conditions concrètes de vie. Et, bizarrement, Descartes, qui est comme les stoïciens d'une certaine manière, reprend quand même, mais dans un autre style, la grande critique qu'ont fait les chrétiens aux stoïciens et que font les religieux aux philosophes en général. Vous êtes des superbes et des orgueilleux. Vous prétendez faire votre salut tout seul comme des grands par les seules forces de votre esprit et de votre pensée. Non, le salut s'obtient par la soumission, etc., les sacrements, etc., etc., etc. Peut-être qu'ils n'ont pas tort, d'ailleurs, les religieux. Mais la grande accusation que la religion porte contre la philosophie et contre les stoïques, c'est l'accusation d'orgueil. L'orgueil, c'est-à-dire compter sur ses propres forces. Descartes reprend cette idée. Mais pas de la même manière. Il dit, ben voilà, c'est que c'est très bien d'être stoïque, mais parfois, c'est difficile. Et comme dit Descartes, l'esprit, l'âme, enfin l'esprit, dépend si fort de la disposition des organes. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ce que nous dit Descartes, c'est que c'est bien gentil de bien penser, de bien vouloir, mais un truc qui est pas mal, c'est d'être en bonne santé. Et que pour pouvoir bien vouloir et bien penser, encore faut-il être à peu près en bonne santé. Donc, le plan capital, c'est de travailler à améliorer la santé des hommes. Et donc, c'est en ce sens-là qu'il n'est pas du tout un stoïque ou un stoïcien. Et il faut produire une science qui permettra l'amélioration de la santé. Mais qui permettra plus encore, c'est-à-dire, bizarrement, aussi de réaliser ses désirs via des machines qui nous permettent de décupler, en quelque sorte, notre puissance. D'où la fameuse expression de cette science dont parle Descartes, qui nous rendrait comme maîtres et possesseurs de la nature. Donc on n'est plus du tout dans une optique platonico-aristotélicienne, c'est-à-dire de la science comme théoria, comme contemplation de la vérité que le ciel nous suggère dans l'éternité de ses mouvements, mais de la science comme capacité de se représenter adéquatement par l'esprit ce qui se passe dans la matière, de telle sorte que je pourrais agir sur la matière d'une manière absolument efficace, comme les artisans qui précisément, par leurs outils, agissent sur la matière et produisent des effets concrets sur la matière. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Descartes considère que le corps est une machine. Alors, il y a toujours des gens pour se dire, oh, mon Dieu, quelle horreur. Mais oui, c'est ça le coup de génie de Descartes, c'est de penser le corps comme une machine. Et la conception mécanique du corps, c'est le fondement de la médecine occidentale, moderne, qui, évidemment, ne réussit pas en toute chose, mais qui, en même temps, donne des résultats tout à fait considérables. Mais en même temps, si vous lisez le traité de l'homme de Descartes, vous verrez que dans le traité de l'homme, Descartes dit que Dieu, l'artisan suprême, a fabriqué l'homme à partir de son modèle vivant. C'est assez extraordinaire. Ça veut dire que Descartes, en fait, ne pense pas que le corps humain est une machine, mais il pense qu'il est comme une machine. C'est ça qui est très intéressant. Et que si on le voit comme une machine, alors, littéralement, on libérera son esprit pour pouvoir le comprendre par cette attitude bien particulière qui s'appelle la science, dans le sens que l'on a un petit peu défini. Donc, voyez de quoi il s'agit. Vers le XVIIe siècle, donc, l'homme s'érige en quelque sorte comme une puissance pensante qui s'abstrait de l'univers et qui considère que l'univers est une vaste machine et que mon propre corps est une machine et qui, en tant qu'il est une machine, obéit à un certain nombre de lois qui sont, comme toutes les autres lois de la nature, connaissables. Et si je connais les lois de la nature, je peux aussi construire des machines qui, elles-mêmes, obéissent aux lois de la nature. Et contrairement à ce que disent parfois des esprits un peu brouillons et hâtifs, qui nous expliquent « Ah, alors finalement, le dualisme cartésien est remis en cause, bicause, je ne sais quoi. » Pas du tout. Les sciences contemporaines, les sciences cognitives, toutes les neurosciences, toute la biologie du cerveau est une continuation de la vaste entreprise cartésienne, puisqu'on l'oublie toujours, le cerveau, c'est du corps. Et ça s'étudie comme du corps, pointe à la ligne. C'est le programme cartésien qui continue. Descartes est absolument d'actualité, sur le plan intellectuel, absolument d'actualité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer Descartes ou qu'il n'y ait pas d'autres questions. Mais sur le plan du programme intellectuel de la science fondée sur le dualisme métaphysique de l'âme et du corps, c'est l'actualité. Alors, c'est ce monde cartésien qui, incontestablement, a produit des effets extraordinaires. Ce monde cartésien dont on espère qu'il pourra produire des effets extraordinaires dans une foule de parties du monde où on a encore tellement besoin que la médecine fasse des progrès. Mais en même temps, nous sommes plongés ou confrontés à une situation où ce modèle de l'homme qui s'érige dans cette position d'être comme maître et possesseur de la nature semble présenter des limites. Alors, comment est-ce que Hans Jonas, dans son livre « Le principe responsabilité », nous le présente. Donc il dit « La promesse de la technique moderne s'est inversée en menace. Préserver pour l'homme l'intégrité de son monde et de son essence contre les abus de son pouvoir. » Donc il y a un effet de retournement en quelque sorte. L'homme était écrasé en quelque sorte par les forces naturelles. Et il semblerait que par sa science, d'essence technique justement, que par sa science, il est abusé de son pouvoir et qu'il y a un certain nombre d'effets, que ce n'est pas la peine de les lister, d'effets qui sont négatifs et qui nous menacent, puisque, bien évidemment, même si on peut s'extraire du monde par l'effet de la pensée métaphysique et de la science, comme seul point qui est le point de la pensée, il est évident qu'en tant que nous sommes des animaux parmi d'autres, nous sommes purement et simplement dans la nature. Hein. Et le projet cartésien, évidemment, l'homme penseur, en quelque sorte, ou scientifique, menace l'homme animal. Bon, certes, hein, mais comme dit Pascal, l'homme misérable ver de terre est juge de l'univers, mais si le ver de terre meurt, ou n'arrive plus à résister, ou n'arrive plus à respirer, il est bien évident qu'il ne pourra plus être encore juge de l'univers. Alors pour Jonas, l'ancienne éthique était anthropocentrique, donc centrée sur l'homme, et souvent centrée sur l'individu. Quand il parle de l'ancienne éthique, ce n'est pas l'ancienne éthique des sociétés primitives, mais bon, une éthique ancienne, mais disons depuis l'Antiquité, je dirais. Et cette ancienne éthique donc, ne semble plus du tout être suffisante. Parce que pour lui, la nouvelle éthique qui est exigée par le temps présent, c'est une responsabilité qui vient du verbe « répondre », comme vous le savez, où il s'agit de répondre de son agir en tant qu'il a plus de puissance et de conséquences qu'on ne pouvait le penser auparavant. Autrement dit, l'éthique de la responsabilité est une éthique qui prend en compte la dimension de l'avenir du point de vue des effets, en quelque sorte, de notre agir. Et pour Hans Jonas, nous sommes dans une situation d'incertitude ou de risque qui est en soi relativement bonne, puisqu'il va même jusqu'à parler d'une heuristique de la peur. Heuristique du verbe trouver, en quelque sorte, eureka en grec. Autrement dit, une heuristique de la peur. Hans Jonas pense qu'il est bon d'avoir peur, que la crainte, souvent, dit-on, est la mère de beaucoup de vertus, en quelque sorte, ou est bonne conseillère, même si le mot peur, c'est vrai, n'est quand même pas très bon. Je préférerais le terme de crainte. Une heuristique de la peur qui permet l'investigation, donc, et qui est le contraire d'ailleurs du repli sur soi. Alors ce qui est très intéressant chez Jonas, c'est que ce qu'il nous dit, ce n'est pas du tout l'apologie de l'obscurantisme ou une idéologie anti-scientifique, mais c'est plutôt quelqu'un qui ferait l'apologie, je dirais, de la prospective. Donc la prospective, qui, vous le savez, n'est pas la prévision. La prévision essayant de dire ce qui va se passer, mais la prospective, c'est le fait de dire « je ne sais pas ce qui va se passer, par contre, si on fait telle hypothèse ou si on fait tel choix sur le plan scientifique ou économique, voilà ce qui pourra ou qui pourrait se passer ». Je pense qu'intellectuellement, c'est quand même très très intéressant, la prospective. Donc, Jonas nous dit, compte tenu du fait qu'il y a des risques, il ne s'agit plus d'arrêter la science et la technique, il s'agit de tourner la science vers la question de l'avenir, en se demandant, ben, si on fait tel ou tel choix, qu'est-ce qui pourra arriver et qui, évidemment, est lié, je ne sais pas si c'est lui purement et simplement le père du principe de précaution, mais il y a certainement un rapport entre le principe de responsabilité et le principe de précaution qui peut conduire à des excès ou à la paralysie, mais qui en même temps doit être conçu, le principe de précaution, comme une exhortation à la connaissance et à la prospective, et non pas, encore une fois, comme l'apologie de l'obscurantisme. Alors la nouvelle maxime éthique, vous vous rappelez de la maxime kantienne, agit de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle. Mais c'est vrai que la morale kantienne, qui est rationnelle, qui dit, ben voilà, une bonne règle, c'est une règle qui, lorsque l'autre l'applique, ne me met pas en contradiction. Si je vole les affaires de mon camarade, à ce moment-là, si mon camarade applique la même règle, à ce moment-là, moi, je ferai la gueule parce qu'il me volera mes affaires. Donc, je suis en contradiction avec moi-même. Donc, le rationalisme de la morale kantienne tient à cette réciprocité. Mais ça reste une morale qui ne s'occupe que des relations interpersonnelles entre les hommes. Comme si les hommes ne vivaient pas dans le monde, comme s'ils ne vivaient pas dans un milieu particulier. Et la maxime de Jonas est la suivante. Agis de façon, elle est très belle, agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Alors, ce qui est chouette dans cette maxime, me semble-t-il, c'est qu'elle est ni anthropocentrée, ni écocentrée. Elle n'est pas anthropocentrée en ce sens qu'elle tient compte du milieu. Oui, oikos, la maison, écologie, donc c'est l'étude du milieu ou de la maison. Elle tient compte du milieu, mais en même temps, elle n'est pas éco-centrée. Ce que dit Jonas, c'est qu'il faut agir de telle sorte qu'on ménagera le monde ou le milieu, mais de telle sorte qu'on puisse continuer à vivre humainement. Donc il y a une écologie qui n'est pas éco-centrée, mais plutôt une écologie de type humaniste, finalement. Et en ce sens, c'est quand même assez intéressant. Et puis, évidemment, c'est une éthique qui n'est pas individuel. Alors, bien évidemment, l'éthique de Jonas n'abolit pas l'éthique au sens individuel et interpersonnel. Évidemment, non. Mais c'est une éthique collective et une éthique qui débouche directement sur la notion de politique publique, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Et son but ultime, d'après Jonas, c'est la prévision. Il dit « c'est seulement la prévision d'une déformation de l'homme qui nous procure le concept de l'homme qu'il s'agit de prémunir ». Et nous avons besoin d'une menace contre l'image de l'homme pour nous assurer d'une image vraie de l'homme grâce à la frayeur émanant de cette menace. Donc le souci de Jonas est un souci profondément humaniste, mais dans un sens, je crois qu'on peut le dire, dans le cas de Jonas, qui est assez biblique, dans le sens où l'homme, évidemment, est à l'image de Dieu. Et préserver l'image de l'homme, c'est aussi préserver la qualité d'une certaine relation, évidemment, avec Dieu. Voilà pour Hans Jonas, pour dire les choses très rapidement, trop rapidement, vous me pardonnerez. Michel Serres, dans son Contrat naturel, dit des choses un peu différentes, mais qui vont un petit peu dans le même sens. Donc, le contrat naturel, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, un contrat, En droit, c'est une convention, hein, les contrats synalagmatiques, comme on dit. Une convention entre quoi ? Entre deux volontés. Autrement dit, ne passe contrat, ne fait contrat que ceux qui sont des sujets de droit et qui sont capables de volonté. Par opposition aux objets inanimés, réputés sans volonté. Et là aussi, il y a cette espèce de dualisme entre l'homme et les choses. Les choses qui, littéralement, n'ont pas leur mot à dire. Penser un contrat naturel, c'est changer complètement notre conception du droit comme notre conception de la politique. Puisque la notion de contrat vaut non seulement dans les relations de droit civil, mais évidemment le contrat social. Toute notre manière de penser la politique est contractuelle. Et donc l'idée de Michel Serres, c'est que nous sommes à une époque où on ne peut pas ne pas songer à passer un contrat, cette fois-ci avec le monde et avec la nature. Et son diagnostic est semblable à celui de Jonas. Le monde était menaçant, il devient fragile, mais vaincu, il finira par nous vaincre. Il faut donc adoucir notre force, ou la mort, ou la symbiose. Ce qui est très beau, c'est « mais vaincu, il finira par nous vaincre ». C'est beau, ça. Bon. Il y a un retournement de la situation. Et il évoque le procès de Galilée. Et au fond, Galilée, c'est l'homme de la science, c'est l'homme du monde objectif. Et l'homme de la science est convoqué par le juge. Et dans le prétoire, Galilée, dit-on, c'est une anecdote et sans doute une légende, et pourtant elle tourne, de telle sorte que Galilée en appelle à l'objectivité du monde contre le jugement des hommes. Mais maintenant, dit Michel Serres, la situation s'est inversée, et il dit, la terre dirait, elle s'émeut. Elle s'émeut, et ce que veut dire Michel Serres, c'est que la terre en appelle au jugement. Et là, c'est très intéressant, parce que l'ordre de la connaissance qui a besoin d'objectiver le monde, qui a besoin de rendre le monde inanimé, sans pensée et sans volonté, ben, il semblerait que le monde, la nature, proteste contre cette vision purement matérialiste du monde et de la nature, en quelque sorte. Et demande à ce que sa cause soit entendue. C'est en ce sens-là que cette fois-ci, ce n'est plus le jugement qui est inique par rapport à la vérité objective de la science, mais c'est au contraire la science qui devient inique par rapport à la nature, qui demande qu'on lui rende son dû. Vous savez qu'on dit que le droit, c'est rendre à chacun le sien. Et donc la nature est en train de demander le sien, son droit, son dû. Et Michel Serres fait la synthèse suivante. L'histoire globale entre dans la nature globale entre dans l'histoire. Voilà de l'inédit en philosophie. L'histoire globale entre dans la nature, c'est-à-dire que littéralement, la puissance dont les hommes ont été capables, véritablement, rentre dans la nature, au sens, lui rentre dedans. Quoi. Et en même temps, la nature globale nous rentre dedans, aussi, peut-être, via des désordres, des changements climatiques, je ne sais quelle catastrophe dont nous avons aussi à subir les conséquences. Pour la première fois, dit Michel Serres, l'homme est physiquement présent sur la Terre. Et c'est vrai, hein, tous les astronautes le disent. Là aussi, c'est bêtement visuel. On voit cet arc extraordinaire qui commence, par exemple, pour l'Europe, à Londres, qui passe par le Rhin et qui va jusqu'à Milan, puis il y a le bassin parisien. Et on voit physiquement la lumière des villes depuis le ciel. Vraiment, l'homme est physiquement... Le petit ver de terre s'est transformé en un immense ver luisant, si je veux dire. Voilà. Mais la nature globale entre dans l'histoire, nous pose des nouveaux problèmes, en quelque sorte. Il y a une autre manière pour Michel Serres de faire le diagnostic, c'est que les hommes, vous le savez, sont toujours occupés à faire la guéguerre, hein, qui est, vous savez que d'après Pascal, pour se détourner du fait qu'on va mourir un jour, on passe notre temps à se divertir. Hein. Tout le malheur de l'homme vient du fait qu'il est bien incapable de rester entre les quatre murs de sa chambre. Donc, la guerre est le divertissement par excellence. Pourquoi ? Parce que la guerre mobilise tout simplement toutes les forces physiques, intellectuelles, morales, voire spirituelles. Donc, la guerre est le divertissement par excellence. Et donc, que font les hommes ? La réponse, ils font la guerre, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous en permanence. Mais nous dit Serre, la guerre de tous contre tous nous a masqué la guerre de tous contre le tout. Et là encore, le théâtre de la guerre est massacré par la guerre elle-même. Et c'est vrai, en plus, je veux dire, si on utilise des armes atomiques ou que sais-je encore, on comprend très très bien ce que ça veut dire. Et à force de se faire la guerre, en fait, on fait la guerre à la nature, on fait la guerre à la terre, en fait. Et quand on fait la guerre à la terre, on se fait la guerre à nous-mêmes, en quelque sorte. Et là aussi, pour Serre, on doit passer d'une ancienne éthique à une nouvelle éthique. L'ancienne éthique, c'est celle dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est la distinction fondamentale. Et puis, c'est régler les relations interpersonnelles. Donc, on va dire, aimez-vous les uns les autres. Bon, comme vous n'y arrivez pas vraiment, au moins, respectez-vous. Ça, c'est donc l'ancienne éthique. Et la nouvelle éthique, c'est le tout dépend désormais aussi de nous, et nous dépendons du tout. Autrement dit, si vous voulez essayer de vous aimer les uns les autres et de vous respecter les uns les autres, ça ne serait pas une idée complètement idiote d'apprendre à aimer et à respecter le monde. Et c'est sans doute assez intéressant. Comme si ce tiers exclu pouvait peut-être mettre d'accord les belligérants et s'imposer à eux. Et je pense que dans tous nos débats, entre nos haines idéologiques, nos haines religieuses, je crois que la nature nous mettra d'accord de ce point de vue-là. Hein, aussi bien en ce sens que je crois que la nature est belle pour tout le monde, et tout le monde est ému par la beauté de la nature, et puis tout le monde a la trouille s'il y a un ouragan, ou si je ne sais quoi, je ne sais quel dérèglement, ou si l'air devient absolument irrespirable. Donc là, on est tous d'accord sur ce plan-là. Et c'est peut-être une bonne médiation, finalement, de passer par le respect dû au monde ou à la création, si on est croyant, le respect dû au monde et à la création, pour apprendre à respecter les autres. C'est donc ma deuxième grande partie. Ces nouvelles philosophies, ces nouvelles éthiques ainsi définies, ont-elles quelque chose de religieux ? Bon, alors évidemment, c'est toujours un peu difficile de définir cela, mais bon, si on s'en tient simplement aux deux auteurs que nous avons pratiqués un petit peu, donc Michel Serre et Hans Jonas, on trouve chez Michel Serre quelque chose qui, je crois, permet de répondre plutôt positivement à cette question. Donc on peut trouver deux points de similitude dans le contrat naturel de Michel Serre, donc entre ce qu'il dit de ce contrat et ce que l'on pourrait appeler une attitude ou un sentiment religieux. Alors voilà ce qu'il dit. « Peut-on pratiquer dans l'attente inquiète d'un second déluge une religion diligente du monde ?» Hein, c'est un renvoi à l'étymologie. Vous savez qu'il y a deux étymologies pour religion. Il y en a une bidon et une bonne. Celle qui est bidon, qui a été, bon, c'est sympathique, relié, mais ce n'est pas vraiment la bonne. C'est plutôt reléguéré. En fait, ça veut dire être scrupuleux, prendre soin, fondamentalement, être religieux. Donc, le contraire de l'homme religieux, c'est l'homme négligent. Et donc, ce à quoi, précisément, Michel Serre nous rend sensible ou attentif, c'est à être plus scrupuleux, plus attentif, plus soigneux, littéralement, vis-à-vis du monde. Autre formule assez énigmatique, mais forte et belle de Michel Serres, que pouvons-nous rendre au monde qui nous donne le donné, c'est-à-dire la totalité du don, que rendre à la nature qui nous donne la naissance, vous savez que nature ça vient du verbe naître en latin, qui nous donne la naissance et la vie. Réponse équilibrée de points, la totalité de notre essence, la raison elle-même, c'est-à-dire justement ce qu'on appelle rendre raison. Donc il donne une interprétation finalement religieuse du rationalisme et qui ouvre une nouvelle époque sous le signe de la dette. Autrement dit, en quel sens la philosophie de Michel Serres a quelque chose de religieux ? Elle a quelque chose de religieux en deux sens. C'est une philosophie du soin, du scrupule, et c'est une philosophie de la dette. Hein, Étienne Gilson disait, c'est une belle formule, le sentiment religieux, c'est le sentiment d'une dette qu'on ne peut pas acquitter. Pourquoi ? Parce que précisément, si j'ai le sentiment d'avoir reçu un don, tout ce que je pourrais rendre, je le rendrai à partir de ce que j'ai reçu. Alors bon, j'ai la possibilité de travailler et de donner de mes agneaux ou des fruits des arbres que j'ai soignés si je suis cultivateur. Hein, bon. Mais après tout, pourquoi est-ce que j'ai de la force ? Ça m'a été donné. Pourquoi est-ce que je suis capable de faire un certain nombre de choses ? Est-ce que j'en suis vraiment l'auteur ? Oui, je suis peut-être l'auteur de ma peine. Bon, d'accord. Mais bon, voilà, quoi, c'est pas extraordinaire. Autrement dit, le sentiment religieux, c'est ce sentiment que précisément il y a une disproportion, un décalage radical entre ce que je suis, ce que je peux donner et tout ce que j'ai reçu, tout simplement. Et ce que dit Michel Serres, c'est assez beau. Il a une interprétation de la science, mais une science élargie, justement. Une science qui s'élargit jusqu'au jugement. C'est que rendre raison du monde, précisément, c'est lui rendre honneur, précisément. Et c'est en ce sens-là, me semble-t-il, que sa philosophie peut avoir quelque chose de religieux. Posons-nous maintenant la question pour Jonas. Alors voilà ce que dit Jonas. Il dit « Aucune éthique du passé, mis à part la religion, ne nous a préparé à ce rôle de chargé d'affaires et moins encore la conception scientifique dominante de la nature, hein, chargé d'affaires, hein, comme lieutenant. C'est une conception très, très biblique, hein, à savoir que l'homme a reçu une création dans laquelle il doit jouer un rôle éminent, en quelque sorte, mais un rôle qui consiste à ne pas faire n'importe quoi. Et il dit encore, ce n'est pas du tout facile et peut-être impossible, sans recours à la religion, de légitimer en théorie pourquoi nous n'avons pas ce droit de choisir le non-être des générations futures au profit de l'être des générations actuelles. Ça se passe de commentaires, je crois. Tout le monde comprend ça très bien. Nous ne possédons pas, nous n'empruntons la terre, évidemment, quoi qu'à nos enfants. Ce souci de préserver l'image et la ressemblance de l'homme. Hein, c'est vraiment ce que dit Jonas, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que son éthique de la responsabilité est profondément humaniste et pas écocentrique, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois. Et puis ça croise ou ça rencontre quelque chose qui vraiment anime notre société. Vous savez que Paul VI a déclaré que le christianisme, en tous les cas de son point de vue, l'Église catholique, était experte en humanité, ce qui n'est pas inintéressant. Et vous savez qu'il y a eu un débat célèbre entre Habermas et puis Joseph Ratzinger, quand il n'était pas encore Benoît XVI, et où ils étaient finalement assez d'accord sur cette idée que les religions sont dépositaires d'une formidable ressource de sens pour comprendre et penser ce qu'est l'homme à un moment où les techniques et les puissances de tout ce qu'on peut faire en biologie, en tout ce qui est médicalement assisté, enfin bref, toutes les puissances de l'artificiel sont en mesure ou en capacité de toucher à l'homme et de peut-être, à force de toucher à l'homme du point de vue de son corps, pourrait toucher à l'homme du point de vue de son essence. Donc c'est vraiment une question tout à fait d'actualité, et je crois qu'il y a chez Jonas un souci bien particulier qui est tout à fait dans le droit fil du monothéisme biblique, me semble-t-il. Alors, quelle conclusion apporter à tout cela ? J'ai perdu ma conclusion, mais ce n'est pas grave. C'est que je crois qu'il faut absolument dire non à ce que j'appellerais l'éco-régression. Alors, éco-régression de trois points de vue. La première forme de l'éco-régression, c'est l'écocentrisme radical, qui cache mal qu'en fait, l'amour de la nature n'est qu'une haine de l'homme et de l'humanité. Après tout, pourquoi pas ? Vous savez qu'il y a vraiment une tendance forte comme ça. Hein. Il y a une autre forme de régression. Ce n'est pas évidemment lié à la nature au sens où l'écologie parle de la nature, mais c'est le fait que la religion, ou les monothéismes en particulier, réenfourchent le dada de la loi naturelle, la théologie de la loi naturelle. Alors, il y a certainement quelque chose d'intéressant là-dedans, mais enfin, il y a cette manière de vouloir nous imposer la nature comme un code, en quelque sorte. Et là, c'est un désir de retour à la nature qui est fondamentalement un conservatisme, je crois, du point de vue éthique et du point de vue des mœurs. Et puis, il y a aussi une régression économique typique. Dans les gens qui font l'apologie de la décroissance, je crois qu'on retrouve un truc assez banal, qui est la haine de la richesse, vous savez. La haine de la richesse, la haine de l'abondance, n'est-ce pas ? Et on retrouve toujours cette idée que derrière le désir de partager, il y a souvent le désir de la pénurie, n'est-ce pas ? On va partager la pénurie ensemble, ça va être formidable, on va serrer la ceinture, chouette alors, l'horreur. D'ailleurs, historiquement, le communisme n'a fonctionné d'ailleurs que quand on avait quasiment rien à partager. Hein. Bon, bref. Alors, voilà à quoi, me semble-t-il, il faut dire non. Par contre, il faut dire oui à un équilibre, je dirais, entre deux tendances qui sont au cœur du dynamisme de la vie comme du dynamisme de la religion. Quelles sont ces deux tendances ? La première grande tendance, je dirais que c'est souviens-toi. 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 Ce message-là est au cœur de toutes les grandes philosophies, de toutes les grandes spiritualités. Souviens-toi. Denken ist an denken, ça marche très très bien en allemand. Bon. Souviens-toi. Dans la philosophie de Platon, la recherche de la vérité, c'est toujours se remémorer, hein, la réminiscence. Bon. Si vous avez un début de commencement de culture coranique, en permanence, souviens-toi de ton Seigneur. Arrête de faire comme si... Non, souviens-toi. Schéma Israël, dans le judaïsme. C'est permanent. Voilà une matrice fondamentale de l'expérience religieuse. Sois reconnaissant. Il y a don, et en tant qu'il y a don, il doit y avoir gratitude. Alors je dirais que de ce point de vue-là, la religion ou le sentiment religieux, c'est, je dirais, le fait de loger le passé à l'enseigne de l'infini. Tandis que l'autre tendance, c'est plutôt, vous savez, ce fameux mot d'ordre, sapere aude, je préfère dire aude que ode, ose savoir, qui est le cri de ralliement de l'Aufklärung, des Lumières, ose savoir. Et comme dit Emmanuel Kant dans son petit opuscule « Qu'est-ce que les Lumières ?»« Ose te servir toi-même de ton propre entendement. » C'est ça, l'âge adulte. Et je dirais que cette audace, en quelque sorte, cette injonction de l'audace, c'est le fait de considérer que la nature n'est pas notre code, et je dirais que c'est la foi, comme le fait de loger l'avenir à l'enseigne de l'infini. Autrement dit, la crise écologique ne supprime pas ces deux tendances fondamentales. Mais simplement, elle change leurs conditions d'existence. Ce « souviens-toi » et ce « sois audacieux » en quelque sorte, n'oublie pas le passé, travaille et pense vers l'avenir, eh bien, il n'a plus tout à fait le même sens dans la crise écologique. Le « souviens-toi » signifie aussi « prends soin et prends garde à cet équilibre naturel dans lequel tu te trouves et dont tu fais partie, qui demande de la connaissance et du soin. » Mais en même temps, sois audacieux, hein, sois audacieux, dans la mesure où ça suppose justement de développer de nouvelles connaissances ou de nouvelles manières d'agir. Et pour citer un truc que j'avais écrit ailleurs, donc Jonas ouvre la voie entre deux écueils funestes, ne placer que dans l'au-delà notre espérance, ne la placer qu'ici-bas, dans un avenir qui ne vient jamais. La mission de la philosophie est bien de se soucier de la vie sur Terre et de l'aimer au point de l'espérer éternellement possible. C'est donc renoncer à toute parousie ou fin de l'histoire dont l'homme serait l'ouvrier. Ce n'est pas pour autant fermer la possibilité d'une espérance métaphysique et religieuse. Découverte d'une double éternité, celle fragile de la terre et de la vie humaine qu'il conviendra de toujours soigner et dont il faut assumer la responsabilité. Celle toujours possible et ouverte d'un ciel qui ne peut jamais tout à fait descendre sur la terre. Autrement dit, l'enjeu, je dirais, proprement philosophique, proprement éthique ou théologique de la crise écologique, c'est qu'elle doit être, elle peut être, non pas une régression, mais un progrès.